victoire pas comme les autres, gagnée contre Metz. C'est pas pareil, évidemment. Alors oui, on s'est ennuyé. 83 minutes de 0-0, d'une impressionnante mollesse. Puis Habib Diarra a marqué et on a aussitôt oublié ce match assez nul, puisque gagner à Metz, c'est le plus important. Au programme ce soir de Cop Racing, quand Saint-Symphorien nous va bien, quatrième victoire de suite à Metz. Est-ce que c'est plié définitivement? Strasbourg supérieur à Metz, on va se poser la question. On a vu hier soir un Racing très poussif, mais qui est aujourd'hui cinquième de Ligue 1. Hier après-midi, pas hier soir, le match. Est-ce qu'il y a que le classement qui compte? Je poserai la question à mes invités. On va aussi évoquer le cas de Habib Diarra, un symbole et un comeback. Est-ce que le 4-4-3 qu'on a vu est la bonne solution? Et puis il y a Lens qui arrive, c'est dès vendredi à la Méno. On va parler de tout ça avec mes invités. Soyez les bienvenus, c'est Cop Racing qui commence. Et mes invités sont ce soir en plateau avec moi, Charlie Yé, l'animateur à Top Musique. Salut Charlie.
Salut Arthur.
Merci beaucoup d'être là. Charlie était à Metz, au stade Saint-Symphorien, oui. Hier pendant le match. On va lui demander s'il s'est autant éclaté que nous devant la télé. Fabrice Venet, bonsoir.
Bonsoir.
De Zut Magazine, merci beaucoup d'être là. À toi aussi. Ouais, c'était comment? Alors, juste peut-être commencer par ça. Aller voir un Metz Racing dans le cadre des arrêtés préfectoraux où on n'a pas le droit d'avoir un petit pins du Racing, ouais. Et rien du tout. C'était incognito à Saint-Symphorien.
C'était t-shirt noir incognito, mais vu certains regards insistants de Messin, je me demandais si on n'était pas quand même catalogué en Strasbourgeois. Alors je sais pas pourquoi.
Ce qui le Racing, ça se voit.
Je sais pas, mais en tout cas en tribune, c'est vrai qu'il fallait être le plus sobre possible à chaque action du Racing, essayer de moins réagir. Mais finalement, c'est vrai qu'avec cette libération, quand on a vu d'autres personnes en tribune se lever, on s'est dit bon, bah allez, nous aussi on peut se lever, on peut faire la fête, notamment à quelques Nancéens qui étaient en tribune pour célébrer la défaite du rival Messin.
Ah, les Nancéens, voilà. Qui sont nos alliés par
exactement.
Alliance. Donc, tu as pu célébrer le but quand même.
Oui, hein. Voilà, on s'est quand même levé, on a un peu quelques petits cris de joie.
Nous à la télé, toi aussi, tu as regardé le match à la télé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le silence de cathédrale de tous les Messins, et du coup, on entendait évidemment le virage. Quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, je confirme, je me suis aussi levé de mon canapé à ce moment-là. J'avais peur parce que la sieste guettait. Je regrettais aussi d'avoir raté le rôti chez la grand-mère, enfin ce genre de choses. Oui, c'était complètement salutaire de ce but quasi inespéré, au terme d'un match totalement inutile, soporifique, brouillon, bâclé, sans même ce qui fait tout le sel d'un derby, généralement. Ouais. C'était un match vraiment haché, avec beaucoup de fautes de part et d'autre, mais pas d'agressivité déplacée, ce genre de choses. Et puis dans les tribunes, oui, il y a eu, on a entendu les Strasbourgeois après, mais aussi pendant le match à quelques instants. Et puis il y avait cette fantastique animation à la mi-temps où ils étaient parés de bleu.
Il y avait un beau tifo dans le parcage, mais c'est vrai que dans le stade, le ressenti était peut-être différent par rapport à la télé. On entendait quand même pas mal les Messins, même si c'était un brouhaha, parce que les deux copes n'étaient pas forcément coordonnées. Le parcage strasbourgeois, on l'entendait, mais on l'entendait vraiment au moment du but strasbourgeois. Sinon, le reste du temps, moi j'étais de l'autre côté, j'entendais pas. Et c'est vrai que l'ambiance était quand même assez poussive. Hein. J'étais un peu déçu.
Nous, à la télé, c'est vrai qu'on entendait assez bien. C'est les micros, sans doute, du diffuseur. Mais avant cette fameuse, j'ai dit quoi, 83e minute, est-ce que comme nous deux, t'as songé à la sieste ou comme
oui, mais c'était difficile de s'endormir parce que le siège n'avait pas de dossier. Donc, du coup, c'était le seul truc qui me maintenait un petit peu éveillé pendant la rencontre. Parce que sinon, effectivement, c'était soporifique. Hein. C'était un derby, comme tu l'as dit, Fabrice, sans saveur.
Ouais. Alors justement, derby, mine de rien, c'est le quatrième derby de suite remporté par le Racing. Qu'est-ce que ça dit, ça?
C'est toujours une fierté. Les supporters avaient mis la pression aux joueurs dès le match de Montpellier, une semaine auparavant, en déployant des banderoles, en chantant également. Donc, un match très important pour le peuple alsacien. Après, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on disait que notre jardin, c'était le Matmut à Bordeaux. Qui constituait aussi longtemps d'anciens rivaux. Est-ce qu'aujourd'hui Saint-Symphorien est notre nouveau jardin? J'ai envie d'y croire.
Charlie?
J'ai envie d'y croire aussi, effectivement. Que ce soit Saint-Symphorien ou même à la Méno, c'est une équipe messine qui nous réussit bien plutôt ces dernières années. Donc, voilà, même si il n'y a pas eu ce sel du derby, les joueurs devaient gagner ce match pour les supporters, pour aussi repasser devant le FC Metz au classement, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi cette anomalie à réparer avec Metz devant le Racing. Donc oui, je pense que ça y est, la roue a tourné. Et alors, il reste encore pas mal de victoires de différence si on prend l'historique entre les deux formations, enfin dans ce derby, mais c'est une question d'année.
Est-ce que c'est parce que c'est un derby justement que les joueurs, peut-être un petit peu stressés, nous ont ennuyés?
Ouais, je pense pas forcément, parce que ce derby, enfin, il avait de la signification, peut-être pas pour tous les joueurs, surtout les nouveaux qui sont arrivés. Je pense qu'il y en a certains qui ne savaient même pas où Angelo, je ne pense pas où s'il est capable de situer Metz sur une carte. Quoi.
S'il situe Strasbourg, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est déjà pas mal, c'est l'essentiel. Mais non, on a vu quand même que ça avait de l'importance pour Thomas Delaine, puisqu'il a joué longtemps à Metz.
Pour Habib Diarra aussi, on en parlera tout à l'heure, parce que le petit Habib Diarra, voilà, était formé au Racing depuis des années et des années, il est baigné un peu dans ce truc-là quand même.
Tout à fait, il a vécu ce genre de confrontation chez les jeunes, donc voilà. Et puis Thomas Delaine qui se fait siffler au début, et après les sifflets ont été dissipés.
Ça a été plutôt gentil, les sifflets pour Delaine. Il en a même parlé en sortie de match, hein, il s'y attendait, et finalement il trouve que ça a été assez calme par rapport à ce qu'il pouvait obtenir en sifflet, en signant chez le rival strasbourgeois.
Est-ce que du stade, on percevait aussi un petit peu de tension du côté des deux équipes à cause de ce symbole de derby, ou pas spécialement ?
Alors la tension, je ne l'ai pas sentie sur le terrain. Enfin, je pense qu'à la télé, c'était pareil. Il n'y avait pas vraiment de tension dans cette rencontre. C'était plat, hein. C'était un match du dimanche à 13h, hein, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, et même la saison dernière, on remarque que ces matchs du dimanche à 13h, entre l'horaire qui est vraiment pas folichon, pour éviter le repas chez belle-maman. Non, mais c'est vrai, c'est un match pour la sieste, hein, parfait. Hein. Ouais. Ce derby n'a pas dérogé à la règle.
Hein. Ouais, bon, ils ont été sympas, du coup. Petite question, nous, on a notre Oukidja, qui était anciennement strasbourgeois et qui est maintenant le gardien de Metz. Est-ce que lui a été un peu sifflé par les Strasbourgeois qui étaient là?
Alors, honnêtement, je ne l'ai pas entendu. Ouais, je n'ai pas entendu ça.
De la télé non plus, on ne l'a pas entendu. Alors, ce Racing, comme Metz d'ailleurs, deux équipes poussives, mais le Racing se retrouve quand même cinquième de Ligue 1. Est-ce que vous diriez que finalement ce classement est à l'image de ce que fait le Racing depuis le début de la saison, où il y a un problème quelque part, Fabrice ?
Non, c'est un classement plutôt flatteur, je trouve, pour ce club. Ne serait-ce que par rapport aux statistiques des fameux tirs cadrés. Donc, hier, ils ont cadré une seule fois, donc ça fait but.
Mais, deux tirs cadrés, je crois, à l'extérieur depuis le début de la saison.
Voilà, c'est ça. Mais même à domicile, il n'y en a pas tant que ça. On est dans le top 5 des équipes les plus faibles dans ce classement-là, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose non plus, mais quand même, quand tu as des équipes comme Lens qui sont capables de tirer 30 fois au but sans marquer, ils avaient perdu contre Metz justement, donc voilà, c'est peut-être un peu flatteur pour moi ce classement, mais bon, 10 points, faut les prendre, on partait quand même dans l'inconnu en ce début de saison. Alors je suis pas sûr que Patrick Vieira ait toutes les clés, sache où il va vraiment, parce que son système change à peu près à chaque match. Je sais pas s'il va retenir grand chose de cette animation, de l'animation qu'il a vue hier à Metz.
Ouais, c'est difficile de déceler pour l'instant des lignes conductrices. Il s'avère que voilà, on est cinquième, ce qui est quand même plutôt bien.
Oui, mais c'est effectivement flatteur. Hein. C'est un classement inespéré vu le jeu produit. Après, quand on regarde les victoires acquises, à part celle de Toulouse qui a été plutôt convaincante, on va dire, en seconde mi-temps. Lyon, c'était franchement de la réussite face à une équipe lyonnaise qui méritait, à mon sens, mieux, en tout cas au moins un point.
Et qui va pas très bien en ce moment.
Et qui va pas bien de toute façon. Donc voilà, c'est bien d'avoir pu les mettre la tête dans le seau dès le début de la saison. Hein. Donc je sais pas, j'ai du mal à cerner cette équipe. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi il faut s'attendre sur le reste de la saison, c'est-à-dire une équipe, allez, on va dire avec un bloc compact et pas mal de réussite. J'en ai peur. C'est ce que nous avait déjà montré Patrick Vieira sur ses autres équipes entraînées. Donc j'ai peur qu'on s'ennuie fermement à la Méno cette saison. Mais si effectivement les résultats sont là et que à la 34e journée, du coup, on nous dit on est 5e en Europa League, je signe. Et je pense que 90% des supporters signeront.
Il y a quand même peut-être un peu de continuité. Il y a eu un peu de continuité entre la fin du match précédent, c'était contre Montpellier, si je ne me trompe pas, et les 15 premières minutes à Saint-Symphorien. Non, c'était plutôt le début de match. Justement, ah oui. Tiens, bon, en fait, je ne vais peut-être pas faire la sieste.
Oui, non, le début de match laissait présager à une domination nette de Strasbourg, qui prenait le jeu à son compte. Et puis après, on est tombé dans l'à peu près constant. Et voilà, donc ils ont bien débuté ce match, les Strasbourgeois, puis après ils ont complètement disparu, et puis beaucoup de fautes techniques, en plus de coups de sifflet assez intempestifs de la part de l'arbitre.
C'est lié à quoi ce changement de visage au bout de 15 minutes, c'est du jeu ?
Je pense que les consignes ont été respectées dès l'entrée du match. En essayant directement d'aller chercher cette équipe messine, mais effectivement, ça n'a pas tenu longtemps. Et comme tu l'as dit, au bout d'un quart d'heure, on s'est fermement ennuyé. Alors, il y a eu aussi l'arbitrage de M. Turpin qui n'a pas aidé, franchement, sur cette rencontre qui était hachée, hein, ouais. qui a un peu pourri le match, malheureusement, même si on n'avait pas besoin de l'arbitre pour le pourrir, ce match, puisque les deux équipes l'ont fait d'elles-mêmes.
Alors, il y a deux joueurs qui sortent peut-être un petit peu du lot. C'est Diarra.
Le buteur, oui.
Et buteur, donc évidemment, ça compte. Et puis Angelo Gabriel, qui s'est peut-être exprimé comme il s'était jusqu'à présent pas exprimé au Racing, ou alors par bribes. D'abord sur Diarra, c'est déjà un petit symbole, parce qu'en effet, c'est un peu un produit du centre de formation du Racing.
Donc déjà, c'est ce symbole-là qui est mis en avant aujourd'hui, et puis aussi son début de saison et puis son intersaison, justement, qui avait été un peu agité, puisqu'on c'est un joueur qui a eu des offres de la part du Racing Club de Lens, mais aussi d'Angleterre. Donc le club n'a pas voulu laisser partir, contrairement à Bellegarde et à Diallo.
Avec des sommes faramineuses, on peut imaginer, quand on a, si je ne me trompe pas, il a 19 ans, ça peut un peu tourner la tête.
Ouais. Voilà, c'est la première fois que ça lui arrive. Je pense qu'il a dû faire un peu le deuil de rester en Alsace encore cette saison. Et Patrick Libiera apparemment l'avait dit, hein, qu'il l'avait pris à part pour lui expliquer. Et il l'a salué encore hier soir. Et on espère que sa saison a démarré.
Viera bienveillant à l'égard de Diarra. On continue de parler de tout ça dans la deuxième partie de cette émission, parce que on va faire une petite pause pour boire un petit verre d'eau. Tiens, à tout de suite sur BFM Alsace. On se retrouve dans un instant. La suite de Cop Racing sur BFM Alsace, on évoquait les joueurs qui sortent un peu du lot, deux jeunes gens, Angelo Gabriel et Habib Diarra. Charlie, Habib Diarra, voilà le retour, le comeback, on peut dire.
Oui, ça y est, enfin, on a vu un match d'un bon niveau d'Habib Diarra cette saison, parce que c'est vrai qu'il était en dedans depuis la première journée, et ce transfert non réalisé, enfin, on ne savait pas exactement si c'était vraiment un indésirable, enfin, un intransférable, voilà, je cherchais le mot, du côté du Racing, ou si effectivement il y avait ces velléités de départ. Alors, on a retrouvé un Habib Diarra, on va dire, peut-être à 60-70% de ses capacités. Je pense qu'il en a encore sous la pédale, clairement. Mmh. Et s'il réussit à se remettre dans le bain, et on retrouvera le Habib Diarra qui nous a régalé la saison dernière à la Méno, déjà du haut de son jeune âge, de ses 19 ans.
Et c'est peut-être lié au système de jeu, le 4-3-3, dont on va parler dans un instant. Il y a un autre jeune que j'évoquais juste avant la coupure, c'est Angelo Gabriel. Alors, pour le coup, vraiment tout jeune, assez remuant, peut-être parfois aussi un peu exaspérant. Il a, semble-t-il, exaspéré Patrick Vieira pendant le match, parce qu'il ne se débarrasse pas assez vite du ballon.
Ouais, j'ai entendu ça, ouais. J'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup le ballon et qu'il le gardait souvent, qu'il avait aussi peut-être tendance à reproduire chaque fois les mêmes dribbles.
Ouais.
Donc, à force, ça devrait commencer à se savoir. Mmh. Mais pour l'instant, ça reste un peu quand même un joueur virevoltant qu'on n'avait pas forcément au Racing ces dernières années. Un profil plutôt intéressant, après à voir si. Parce que c'est lui qui réalise la passe décisive sur le but. Donc,
alors qu'il devait sortir. Hein,
ouais. Ouais, ouais. Et c'est justement une touche qui fait cette.
C'est un peu plus savoureux du match, il touche le ballon qu'une seule fois. Source d'espoir, ce Angelo Gabriel, ou pas?
Oui, déjà, un Brésilien au Racing, c'est quand même peu fréquent. Et c'est vrai que là, on voit un joueur technique, effectivement, capable de bien embêter les défenses adverses. On a eu les défenseurs messins qui ont eu beaucoup de mal quand même à l'arrêter. Et on sentait, même dans le public, là, à Saint-Symphorien, on sentait que dès qu'Angelo avait la balle, les supporters messins étaient crispés. Enfin, ils se disaient, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, forcément, un Brésilien, nous, ça nous fait rêver. Et c'est vrai que là, pour le coup, au Racing, il y a ce joueur qui, s'il confirme, peut très rapidement, l'année prochaine, retourner à Chelsea et se faire une place, clairement. Alors, c'est dommage parce qu'on se dit c'est un joueur qu'on va garder une saison maximum, mais on va en profiter à fond. Et s'il peut nous faire gagner un maximum de points et embêter un maximum de défense adverse, ben, on prend avec plaisir. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Oui.
Ouais, c'est sans doute le modèle Blouko qui commence à s'appliquer ici à Strasbourg. Mais t'es d'accord, il garde trop le ballon ou pas?
Non, ça me gêne pas parce que c'est un joueur embêtant, comme je disais. C'est vraiment ces joueurs-là qui fatiguent aussi une défense. Alors ok, il y aura des pertes de balles, mais la plupart du temps, enfin, elles ont été sans conséquence, que ce soit face à Montpellier, notamment en seconde mi-temps, ou face à Metz hier. Ça va peut-être nous coûter cher à certains moments, mais moi ça me dérange pas. En tout cas, j'ai envie de le voir continuer à réaliser ce genre de performance et qu'il garde la balle, qu'il fasse ses dribbles.
Même si quand il joue simple, il y a but.
Oui, en plus, voilà. Donc voilà, il y a eu but hier, donc tant mieux pour lui.
Il est très jeune, Angelo Gabriel, comme dira, je vais citer nos camarades de Racing Database qu'on salue et qui ont sorti cette stat tout à l'heure. Moyenne d'âge de 23 ans et 10 mois, ça c'est le 11 de départ du Racing hier midi à Metz. C'est le plus jeune 11 de départ strasbourgeois depuis le 17 décembre 2005. Ça fait donc un sacré bail. Est-ce que ça explique peut-être aussi un petit peu le côté inabouti qu'on a pu constater pendant ce match et depuis le début de la saison?
Sans doute. Il y a des joueurs, par exemple, qu'on n'a pas vu hier. Un joueur comme Bakwa, lorsqu'il était rentré, il avait un peu modifié le match contre Montpellier. Là, il était titulaire. Mmh. Il était plutôt discret. Peut-être que une première titularisation dans une nouvelle équipe fait que ce joueur-là a juste appliqué les consignes, sans faire plus, sans faire moins. Et voilà, après, après il y avait aussi Marvin Senaya qui a remplacé Frédéric
titulaire
Gilbert,
à droite, ouais.
Titulaire à droite, qui lui a très bien fait son boulot, qu'on a moins vu offensivement. Mais là aussi, je pense qu'on lui avait dit tu restes derrière, tu bloques ton couloir, et puis. Voilà.
Alors pendant que tu parlais, il y avait la compo qui s'est affichée sur l'écran de nos téléspectateurs, ce nouveau 4-3-3. Tu disais tout à l'heure pas beaucoup de stabilité dans le système de jeu de Patrick Vieira. Est-ce que ce qu'on a installé là, avec notamment Habib Diarra à un poste de prédilection, vous dites banco, on continue comme ça, on essaie encore quelques matchs?
Oui, justement, parce que pour revenir sur Habib Diarra, c'est vraiment le poste qui lui correspond et le schéma aussi qui lui va bien. Donc c'est vrai qu'il a été habitué ces derniers matchs à jouer à un poste assez inhabituel, hein, pour lui. Donc là, pour le coup, le 4-3-3 correspond, à mon sens, à une bonne partie de l'équipe. Après, j'ai toujours du mal avec Emega seul en pointe, mais c'est vrai que c'est un système qui semble porter ses fruits déjà, avec en tout cas les points parlent pour Patrick Vieira, et j'ai envie de voir ce système encore plus longtemps, avec aussi un Marvin Senaya qui s'impose vraiment et qui prend petit à petit la place de Frédéric Gilbert. Une charnière centrale qui hier a été très très solide, enfin c'est vrai, à des offensives messines assez pauvres, hein, mais je trouve que ce duo Niamsi Perrin est plutôt rassurant en défense.
Il nous fait oublier notre joueur le plus cher de l'histoire,
à quelle place? Il n'y a pas de place pour lui actuellement. Si on reste sur ce 4-3-3, je vois mal Patrick Vieira sortir un Lucas Perrin qui a fait un super match hier, pour moi qui était dans les trois meilleurs du Racing hier sur la rencontre, hein.
Fabrice?
Je suis tout à fait d'accord. Ouais, de toute façon, on va se poser la question de ce joueur, de Silla, quoi, où 20 millions d'euros, c'est un garçon qui ne joue pas, ça fait un peu tâche, surtout pour un club où on était réputé, un sou est un sou, on n'était pas du genre, le Racing n'était pas du genre à flamber l'argent qu'il n'avait pas, jusqu'à ce que le rachat arrive. Donc,
mais sauf que, comme me le disait un certain Mathieu Chanvillard, quand t'es pas bon, tu ne joues plus, quoi.
Voilà. C'est c'est un pari, et puis on a quand même pléthore de défenseurs centraux, quoi.
Ouais.
Surtout en 4-3-3, du coup, maintenant avec deux défenseurs centraux, on a embouteillage, même si Doucouré est du coup repassé au milieu.
Donc on a recruté essentiellement des défenseurs centraux, et puis on va jouer dans un autre système, quoi.
Ouais.
Donc,
Gilbert, il fait les frais aussi de ce nouveau système, ou il fait surtout les frais de la montée en puissance de Senaya? Il faut qu'on parte du principe que maintenant Gilbert c'est sur le banc au coup d'envoi?
Moi, je pense que Senaya prouve qu'il a sa place de titulaire. En tout cas, voilà, c'est des performances qui lui donnent raison. Mais c'est pas pour autant qu'il faut enterrer Frédéric Gilbert, qui, à mon avis, aura encore pas mal de cartes à jouer sur la saison. Et on le reverra, c'est sûr, parce que ça reste un très bon joueur et capable d'excellents matchs. Et on aime aussi beaucoup ses qualités de centreur qui manquent parfois au Racing.
Et sur l'animation du jeu, ce 4-3, on se souvient, il me semble, contre Montpellier, c'était un 4-2-3-1 avec Moïse Saï qui était un espèce de numéro 10 un peu bizarre.
Ouais, ou 9,5, ou ouais, 9,3 quarts. Voilà.
9,4-5e. Est-ce que ce 4-3-3 plus classique permet une animation plus efficace? On a vu un petit peu, pareil que dans le premier quart d'heure, mais un petit peu de dynamisme du jeu en triangle un peu.
Je doute un peu là sur l'animation, ouais. Parce qu'on n'a pas forcément les joueurs pour ça, créatifs, capables de casser les lignes au milieu, à part Diarra, selon moi. Mais il manque toujours, pour moi, il manque un profil d'un joueur comme Bellegarde ou Thomasson par le passé ou Morgan Sanson, qui était vraiment en soutien de l'attaquant, surtout quand on joue avec un seul attaquant, qui est assez loin des ailiers, enfin sur le match d'hier notamment. Mmh. Quoi. Donc, je demande à voir. Quoi.
L'enthousiasme de Fabrice Vaudet fait plaisir à voir.
Non, mais c'est vrai qu'au milieu, moi je trouve qu'on a un problème au milieu. C'est-à-dire que Deminguet, pour l'instant, n'a pas prouvé grand-chose sous les couleurs strasbourgeoises. Hier, il était plutôt assez énervant. Enfin, il joue jamais vers l'avant à ce compte-là. Si c'est pour jouer toujours vers l'arrière, autant mettre Persic. Hein. Il nous fera la même chose.
Discret et prudent, Jessy Deminguet. Le prochain match, c'est déjà vendredi, dans quelques jours seulement, contre Lens. Qu'est-ce que vous imaginez de Lens qui fait un début de saison plus que compliqué, beaucoup plus compliqué que le nôtre, disons. Charlie, un petit...
C'est
commentaire.
Compliqué de prédire cette rencontre qui va être, qui est totalement imprévisible. Entre un Lens, on a vu un très bon Lens en Ligue des Champions. J'avoue, j'ai pas regardé le match de Lens ce week-end, mais la victoire va certainement lancer leur saison. C'est une anomalie quand même de retrouver Lens relégable. Donc, moi, j'ai envie de croire que le Racing peut embêter cette équipe lensoise. Et à mon avis, il faut s'attendre à un match dans la même veine que celui de Lyon à la première journée, c'est-à-dire une équipe lensoise qui va nous dominer une bonne partie de la rencontre. Nous, on va faire le dos rond, on va défendre et puis on va les piquer en contre. Alors c'est vrai que on a la chance d'avoir encore face à nous une équipe lensoise pas totalement en confiance, donc c'est peut-être le moment ou jamais de prendre 3 points.
Lens n'est pas devenu non plus forcément moins bon que nous là, à l'occasion de ce début de saison.
Non, mais Lens joue la Ligue des Champions, donc ce qui est quand même nouveau pour cet effectif-là. Ils ont une semaine à 3 matchs. Je crois que dans la foulée, ils reçoivent Arsenal. Et puis ensuite, ils ont leur derby contre le LOSC, chez eux à domicile. Donc s'il y a un match à perdre, ce sera plutôt suite Strasbourg.
Et ben voilà. En général, quand je remplace Mathieu Chanvillard à la présentation de Cup Racing, à cette heure-ci, je cite toujours Mathieu Chanvillard. Dans la vie, il n'y a pas que le foot. Regardez.
Deuxième match de la saison et première défaite pour la SIG battue par Limoges. Très mal parti après 10 minutes de jeu et déjà 22 points encaissés, les Strasbourgeois ont attendu le retour des vestiaires pour sonner la révolte. À défaut de bien défendre, ils marquent 28 points dans le troisième quart-temps, mené par Paul Lacombe, auteur de 15 unités et 5 passes décisives. À 3 minutes de la fin, la SIG est même devant mais finit par craquer en fin de match. Défaite 80-87 des Strasbourgeois qui devront faire mieux dès demain en Antalya face à Jonava pour espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. En handball, premier faux pas de Célestat cette saison. Les Alsaciens battus à domicile par la lanterne rouge de Pro League, Cournon d'Auvergne. Les Violets ont fait la course en tête une bonne partie de la rencontre, mais sans jamais réussir à se mettre à l'abri. En début de deuxième période, il manque même deux ballons pour tuer le match et s'incline finalement d'un petit point 30-31. Prochain rendez-vous vendredi à Cherbourg. Et puis le paratriathlète de l'ASPTT Strasbourg, Jules Ripstein, encore une fois sur le toit du monde. Il a décroché samedi à Pontevedra en Espagne son 4e titre mondial. L'Alsacien résistait jusqu'au bout pour finir 20 petites secondes devant son principal rival, l'Américain Mohamed Lana. Une performance de bon augure à moins d'un an des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Un récap multisport signé Fanny Cousin d'RMC Sport. Fanny, qu'on salue. On va terminer avec un petit prono pour le match de vendredi contre Lens. Fabrice?
Allez, victoire d'un 0 pour Strasbourg.
Ouais, Charlie?
Un partout. Je suis un peu plus pessimiste quand même.
Oh là là, allez, on espère qu'on va y gagner. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Cup Racing. Prochain numéro la semaine prochaine avec l'habituel, Mathieu Chanvillard. Passez une bonne soirée. L'info locale revient dans un instant sur BFM Alsace.